Lundi a débuté le déconfinement, les gestes barrières et la vigilance restent de rigueur. Dans l'invité de Grand Sud FM, je suis en compagnie du docteur Alain Perret, chef des urgences au centre hospitalier de Narbonne et président de la commission médicale d'établissement. Bonjour docteur.
Bonjour.
Depuis pratiquement 2 mois, nous faisons le point régulièrement avec vous sur l'évolution de la situation au centre hospitalier de Narbonne pendant la période de confinement. Voici venu le temps du déconfinement depuis lundi. Où en êtes-vous aujourd'hui, docteur Perret, sur le plan hospitalisation et patients en réanimation ?
On a eu un week-end où on avait 0 patient en réanimation. Hein. Le chiffre était tombé donc à 0, ce qui était bien sûr une excellente nouvelle. Après, on a eu une patiente qui s'est dégradée lundi soir et qui a été admise en réanimation avec un Covid positif. Donc, comme un petit signal d'alerte en disant, vous voyez, c'est pas complètement fini, il faut rester prudent. Ouais, ça a été une petite piqûre de rappel. Après, pour le reste, effectivement, on est quand même sur une activité Covid qui est très très faible, hein, avec très peu de patients, mais qui n'est pas nulle, quoi. Donc, on attend avec anxiété les effets du déconfinement, hein, puisque vous savez que le Covid a une durée d'incubation qui est de 10 à 14 jours, hein, grosso modo. Donc on a déconfiné lundi et on va voir en fin de semaine prochaine ou en début de semaine d'après si ça a des incidences en termes de nombre de passages ou pas.
Et sur le plan hospitalisation, vous êtes à combien de patients ?
On est un peu moins d'une dizaine, mais des patients qui sont plutôt de moyenne gravité en fait, hein, et qui ont parfois d'autres pathologies associées au Covid qui font qu'ils nécessitent une hospitalisation, quoi. Mais des patients essentiellement âgés, bien entendu.
Pour beaucoup de gens, pour le grand public, il y a l'impression, sans doute illusoire, que le problème est derrière nous. Quel est votre point de vue ?
Moi, je pense que le problème n'est pas derrière nous. Hein. J'ai eu une urgence, un patient qui s'est dégradé, qui est Covid certifié, hein, avec plusieurs tests qui ont été positifs, donc qui date de lundi. Quelqu'un qui n'était pas très très âgé non plus, hein, puisque aux alentours de la soixantaine. Donc voilà. Donc le problème n'est pas derrière nous. Alors effectivement, l'activité est assez calme. Je pense qu'il faut rester extrêmement vigilant. C'est une épidémie. Donc une épidémie, c'est quelque chose qui peut être exponentiel, hein, c'est-à-dire que c'est une personne, quand on le contamine 2, puis 2, puis 4, hein, vous voyez le phénomène, hein, ça peut se réaccélérer très rapidement. Donc je pense qu'il faut être extrêmement prudent. Il fallait déconfiner parce que ça posait 20 000 problèmes supplémentaires économiques, c'est pas mon domaine, donc j'y viendrai pas là-dessus, mais même sur le plan médical, il y a plein de personnes qui pouvaient pas se faire hospitaliser ou opérer d'autres pathologies, donc ça j'avais déjà dit que c'était important qu'on déconfine pour que les gens aient de nouveau accès aux soins. Hein. Après, même en ayant déconfiné, il faut faire attention à essayer de porter au maximum un masque, même si j'ai exprimé mes réserves sur le fait que c'est pas une cape d'invisibilité, hein, ça protège pas de tout, donc il faut respecter les gestes barrières, essayer d'être distancé, se laver très régulièrement les mains, voilà, faut garder cette espèce de prudence, on va dire, de faire attention dans sa vie quotidienne, d'être en distance avec les personnes, hein, pour pas transmettre la maladie, quoi.
Qu'y a-t-il de changé pour le médecin urgentiste que vous êtes par rapport à la situation antérieure ?
Ben, ce qui a changé, c'est qu'on a repris une activité standard des urgences, hein, puisqu'on est repassé au-dessus de 100 passages. Hein. Alors, pour donner une idée, les urgences de Narbonne, c'est 120-130 personnes par jour en moyenne, hein, sur l'année, et plutôt 170-180 pendant le juillet-août. Pendant la crise Covid, on était tombé aux alentours de 60 passages par jour, avec une 30-40 passages qui étaient Covid. Hein, donc on a changé de nature des urgences. Hein, c'était moins de personnes, mais plus grave. Là, on est revenu à des chiffres au-dessus de 100, avec bien sûr l'inquiétude d'avoir des activités trop importantes parce que le service est plus petit qu'avant le Covid, puisqu'on a été obligé de faire une partie qui est Covid. Hein. Les patients qui ont une suspicion d'être atteints de la pathologie Covid sont obligés d'être isolés dans un circuit particulier pour éviter qu'ils contaminent d'autres patients qui sont venus pour d'autres pathologies. Donc on se retrouve avec un service d'urgence qui est plus petit qu'avant. Et donc on a des difficultés aujourd'hui de prise en charge parce qu'on manque d'espace, parce que faire deux filières, deux services d'urgence dans un même service d'urgence, c'est compliqué. Et puis il y a aussi la grande difficulté du tri parce que c'est parfois, vous savez que chez les personnes âgées, la maladie Covid peut prendre des aspects un peu différents, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément des symptômes respiratoires, on peut avoir des symptômes digestifs, ou cutanés ou d'autres types de symptômes. Donc le danger, c'est de ne pas orienter la personne dans la bonne branche des urgences, hein, mettre un patient non Covid du côté Covid ou inversement un patient qui serait Covid du côté non Covid, quoi. Vous voyez, donc ce travail de tri, c'est un travail qui est difficile parce que les symptômes sont assez variés et que malheureusement on peut avoir des mauvaises surprises avec des patients qui sont très peu symptomatiques, quoi. Donc voilà, on rentre dans la technique du tri des urgences, hein. Je sais que le mot est pas forcément apprécié dans le grand public, mais c'est voilà, c'est le terme générique, c'est le tri. Donc on est bien obligé d'orienter les gens, ceux qu'il faut prendre en charge rapidement, ceux qu'il faut prendre en charge moins rapidement, ceux qu'il faut prendre en charge Covid, etc., etc. Et cette fonction est extrêmement difficile, elle est faite par des infirmiers qui ont une formation spécifique, hein, qu'on appelle les IAO, donc infirmiers d'accueil et d'orientation. Et cette fonction de tri et d'orientation des patients, elle est très complexe, et le Covid la complexifie encore plus.
Combien de temps le virus survit-il sur les surfaces
Le mode de contamination, le principal, ça reste quand même le contact interhumain. Hein. C'est le contact par l'intermédiaire des surfaces, il est quand même assez hypothétique, sauf bien entendu si vous en vous passant, je sais pas moi, un verre ou des objets directement à un patient Covid, quoi. Mais les survies de toute façon des virus de manière générale sur des surfaces inertes sont assez faibles. Alors on trouve des traces, hein. Il y a eu plein de publications sur le nombre de le temps que ça restait sur le bois, le papier, le fer, etc. Mais au bout du compte, c'est quand même souvent des versions dégradées du virus. Donc la contamination et la contagiosité est assez faible quand c'est sur une surface inerte. Les principaux modes de contamination sont soit par contact, soit par aérosolisation, c'est-à-dire le fait qu'il y en a quand vous postillonnez, il y en a quand vous éternuez, quand vous toussez, etc. Là, vous envoyez des particules de salive sur lesquelles il y a du Covid et qui est très actif. Voilà, donc ces choses-là sont des modes de transmission qui sont les plus évidentes. La transmission par structure inerte, elle est anecdotique en fait. Hein, donc je pense que c'est pas la peine de rentrer dans des systèmes de paranoïa, de voilà, sur les contacts, les surfaces inertes. Ça reste quand même très très faible par rapport au simple risque de contamination interhumaine, soit par le contact, soit par la salive ou les postillons.
Les consultations ordinaires habituelles ont repris au centre hospitalier de Narbonne. Le masque est-il obligatoire, hein?
Oui, on a le masque obligatoire pour consulter dans l'hôpital. Hein. C'est quand même une recommandation. Hein. Il vaut mieux avoir un masque, même si, encore une fois, ça fait pas tout et il faut faire attention, voilà, de pas l'enlever, le remettre, etc. Donc ça reste quelque chose qui est un peu difficile à maîtriser. Hein. C'est compliqué de se balader avec un masque toute la journée. Et si vous êtes un peu en distance sociale, c'est pas forcément nécessaire. Mais par contre, quand vous venez dans un hôpital, bon, ben, je pense que c'est un peu évident pour tout le monde quand même qu'il faut se protéger au maximum. Et il y a beaucoup de gens malades dans un hôpital, c'est par définition. Et le masque est demandé, bien sûr, pour consulter à l'hôpital de Narbonne.
Et il y a toujours un filtrage à l'entrée ?
Oui, il y a un filtrage. On essaye de... On a, alors, les consultations ont repris, mais on était obligé, bien sûr, de prendre des mesures de distanciation. Hein, c'est-à-dire que dans une consultation qui recevait, je sais pas moi, une quinzaine de personnes dans l'après-midi, on va recevoir la moitié, on essaye d'étaler les rendez-vous de manière à ce que les gens ne se croisent pas, on essaye de demander aux personnes qui viennent en consultation de venir à l'heure bien, bien précise, hein, ni avant ni après, de manière à ce que ce qu'on essaie de mettre en place, c'est-à-dire qu'il y ait le moins de monde possible dans les salles d'attente et que les gens se croisent au minimum, ce soit le mieux respecté, oui, évidemment.
Merci, docteur Alain Perret. Je rappelle aux auditeurs de Grand Sud FM que vous êtes le chef des urgences du centre hospitalier de Narbonne et président de la commission médicale d'établissement.
Merci à vous, bonne journée.